musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Le service patrimoine de la mairie de Lisieux propose plusieurs visites, dont la visite de Port-Breton à Port-Joinville. Rendez-vous pris place de la Pilée à Port-Joinville avec le guide Frédéric Bernard. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Le port a porté le nom de Port-Breton jusqu'à quelle date ?
Donc le port a eu différents noms. Donc principalement en fait le nom définitif de Port-Joinville c'est 1846.
On va débuter ici. Donc là on est sur la place de la Pilée. Donc là je vais vous parler du port. Derrière moi. Donc à l'heure actuelle, le Port-Joinville est fixé ici depuis environ le 10e, 11e siècle. Et ce sont les moines qui ont fondé le monastère de Saint-Étienne qui se trouvait au Kerchalon qui ont implanté le port à l'emplacement où il est aujourd'hui.
Mais durant cette période jusqu'à à la création du port aux alentours du 10e, 11e siècle, à part quelques fois où le nom a changé, notamment au milieu du 17e pour le port de la Pélagie et durant la Révolution pour le port de la Sans-Culotterie.
Et d'où vient ce changement de nom de Port-Breton à Port-Joinville ?
Alors tout simplement, c'est que donc Joinville, ça vient du prince amiral de Joinville qui était donc le troisième fils de Louis-Philippe, qui va participer à la modernisation des ports de France. Donc le port de Lisieux va en profiter. Et ils vont en faire la demande, ils vont lui faire la demande s'il pouvait prendre son nom en fait, pour lui rendre hommage en fait.
Donc qui était un quai de pierre sèche, appelé port breton ou port haut breton. Parce que c'était dû au cabotage et le fait que pas mal de marins bretons faisaient escale. Donc les premiers grands travaux d'ampleur vont se faire à partir du milieu du XVIIe siècle.
Cette visite est une balade d'1h45. Que fais-tu découvrir aux visiteurs ?
Donc déjà, je fais découvrir les différentes évolutions du port par lui-même au niveau des constructions au fur et à mesure que ça a été fait. Je parle un peu de l'architecture aussi au niveau des maisons pour les habitants du port. On en trouve plusieurs types. Alors les maisons d'armateurs, les maisons de commerçants et puis les maisons traditionnelles en fait. Ainsi que donc on parle un peu aussi de l'histoire de la traversée entre Lisieux et le continent. Parce que c'est agréable de nos jours, mais ça n'a pas toujours été le cas.
La mer devait être moins mauvaise qu'hier, hein, parce que hier matin, dis donc, ça donnait, nous avons souffert.
Donc voilà, donc là je vais vous parler donc de l'histoire des traversées entre Lisieux et le continent. Donc aujourd'hui, si on prend la compagnie au continent, on le fait en une demi-heure ou la Vendéenne en 45. Donc c'est quand même relativement confortable. Ça n'a pas toujours été le cas. Les premières traversées régulières entre Lisieux et le continent vont se faire à partir du 19e. Et là, le plus court temps, c'était 3 heures, quand les conditions étaient clémentes. Et le pire, ça pouvait être 14 heures. Donc généralement, c'était comme ça avec des vents de face. C'était pas les plus agréables. Et en plus, à cette époque-là, ils le faisaient avec des chaloupes à voile.
Je parle aussi donc de la pêche, bien sûr, parce que ça reste quand même l'activité du port.
Et il y a beaucoup de questions par rapport à la pêche durant cette visite ?
Énormément, en fait. Parce que comme j'évoque les pêches historiques, notamment la pêche au thon blanc, les différents moyens pour l'attraper, il y en a certains qui ont posé beaucoup plus de questions et... J'aime parfois aussi corriger certaines erreurs qu'ont pu être dites aussi.
Quelles erreurs par exemple ?
Notamment à propos du filet maillon dérivant en fait. On l'a accusé de beaucoup de choses, alors qu'à la base ça reste quand même un filet qui a été créé par l'IFREMER, donc un organisme d'état de protection, de surveillance de la nature et tout ça, des mers. Et que les gens pensent qu'il est totalement déjà, qu'on n'a plus le droit de l'utiliser, alors qu'il est simplement interdit pour le thon blanc et l'Atlantique. Alors que les autres zones de pêche européennes, on peut l'utiliser comme on le veut.
Comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur la place Apulée, jusqu'au 18e siècle, Lisieux était une île de caboteurs, donc fait pour le transport de marchandises d'un point A à un point B. Cabotage qui va s'arrêter à partir du début du 19e siècle aux guerres napoléoniennes, notamment contre l'Angleterre et son blocus qui va couper ses routes marchandes pendant plusieurs années. Donc là, les îlets vont commencer à devoir choisir un nouveau type d'activité. Bon, ils pratiquaient déjà la pêche avant, durant l'été, de juillet à août, parce qu'ils ne faisaient pas de transport de vin spiritueux à cause des chaleurs, ça pouvait abîmer le vin. Et ils pratiquaient un peu la pêche à la sardine à cette époque-là. Donc pêche à la sardine qu'on fait de manière estivale dans les années 1840. Et à partir des années 1850, on va passer à la pêche au thon blanc, qui est la pêche historique en fait pour l'Île-Dieu. Donc, ou le thon germont, comme on peut le trouver aussi.
Dans quel lieu de Port-Joinville s'arrête cette balade ?
On fait différents lieux, donc la place Lapillé pour débuter, bon, on fait la rue de Gabriel Guistot, la rue de la Fourchette.
Où se trouve la rue de la Fourchette, si tu peux un petit peu la situer dans Port-Joinville ?
Donc en fait, c'est une rue qui se trouve à l'arrière en fait. Là où en fait faut, pour la trouver plus facilement, faut remonter, faut prendre la rue qui passe à côté du café du centre pour remonter vers le haut, et vous prenez sur votre droite et vous tombez sur cette rue là en fait, à côté de la rue de l'Argenterie.
Et pourquoi on s'est arrêté dans cette rue de la Fourchette ?
Tout simplement pour parler de la maison traditionnelle, parce que là on a le plus bel exemple qu'on a dans le port, et en plus on peut voir les évolutions parce qu'on a d'autres sur les maisons aux alentours. On peut voir aussi comment les maisons ont évolué et ainsi de suite.
C'est la souris qui va couper la tête au chat.
Donc voilà, donc ça c'est la maison traditionnelle des gens de l'Île-Dieu. Donc au niveau extérieur, elles ont toutes le même aspect, c'est une porte encadrée de deux fenêtres. Donc la porte qu'on donne sur un couloir qui permet d'accéder aux deux pièces qui sont de chaque côté. Donc quand on regarde en face, la pièce de gauche, c'est la chambre commune à toute la famille. Et à droite, c'était la salle commune avec la cuisine pour les repas. Ce couloir donne aussi accès derrière à un potager, donc qui permettait à la famille d'avoir des légumes frais. Et pour protéger ce potager du vent, qui est quand même assez important sur l'île, ils ont l'entouré d'un mur de pierre qui fait entre 90 cm et 1,20 m. Et on trouve au fond de ce terrain, donc outre les toilettes, il y avait aussi le magasin Pierre Sèche, qui servait donc à stocker les quelques récoltes qu'il pouvait y avoir, et aussi le matériel.
Et dans quel autre lieu s'arrête la visite ?
Donc on fait le quai Joseph Martin, ainsi que le bout du quai du Canada. Au niveau de l'abri de sauvetage, l'abri du marin.
Ces abris du marin, c'est l'œuvre d'un homme qui était Jacques de Thézac, qui était un marin, un plaisancier rentier, qui va pas mal naviguer à partir des années 19e, 20e. Et il va se rendre compte à travers ses pérégrinations que malheureusement les marins qui étaient en escale n'avaient pas grande occupation quand ils étaient au port. Une des seules occupations qu'ils avaient, c'était le bar, le café. Et à cette époque-là, il ne servait pas de boisson chaude, hein, c'était que du froid. Hein. Donc voilà, et donc quand ils dormaient dans leur voile. Donc ce qui n'était pas non plus des conditions très rêvées. Donc lui, il va essayer de prendre le problème à bras-le-corps, il va décider en fait tout simplement de proposer aux marins un lieu où ils vont pouvoir prendre son escale.
Et on fait un petit arrêt aussi au niveau des usines.
Toutes les usines vont connaître la fin vers la fin des années 40. Donc le Super U, c'était l'usine Amieux, arrêtera de fonctionner en 47. Quand vous partez du Super U pour aller vers le port, il y a un grand bâtiment sur la gauche tout en longueur.
Ouais.
C'était
avec
l'ancienne.
Avant,
juste après le rond-point. Là où il y a l'îlot cadeau, la fabrique et tout ça. Ça, c'était l'usine Paulet de 40, qui ferme ses portes en 48. Donc l'usine Bouvet-Flon, qui est donc l'ancienne SPE. L'usine Sopiquet qui fermera ses portes en 49. Et la dernière usine est l'usine Béziers, c'est là donc, où est le centre de vacances Iloya, le bâtiment que je vous parlais avec là où était le fort de Saint-Jean en fait. Donc il fermera ses portes en 1950.
Et on finit aussi par passer par la ruelle des Sept Venelles, qui permet de serpenter dans les derrières du port.
Que toute cette petite venelle en fait permettait généralement d'accéder au jardin en fait, qui se trouvait derrière les maisons. Donc vous en avez un peu partout, c'est soit des venelles comme ici, parce qu'on peut la traverser, mais parfois, bien souvent, c'est des impasses. Et donc traditionnellement, en fait, quand on connaissait les gens, quand on leur rendait visite, on ne passait jamais par la porte de devant. On passait toujours par la porte qui donne accès sur le jardin, donc on passait toujours par les petites fenêtres. Et donc on a l'impression que de première vue comme ça, le port est complètement bétonné en fait. Il n'y a pas du tout de jardin, ce qui n'est pas vraiment le cas.
Les prochains rendez-vous pour la visite de Port-Breton à Port-Joinville auront lieu les 1er, 15 et 28 septembre à 10h. Les inscriptions ont lieu à l'office de tourisme de l'Île-Dieu. Merci Frédéric Bernard pour la visite.
Mais de rien.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, on vous présentera la saison culturelle 2017 sur l'Île-Dieu en compagnie de Manuel Guillon, responsable du service culturel à la mairie de l'Île-Dieu, ainsi que Sylvie Grod, premier adjoint chargé de la culture et du patrimoine à la mairie de l'Île-Dieu. À demain, au revoir.
Musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.